16h25, attention, ça va brasser parce qu'on a deux légendes du journalisme sportif en onde avec nous, Martin McGuire et Philippe Quentin. Salut les gars.
Salut. Salut. Je pensais pas avoir atteint l'âge de la légende, mais écoute, je vais prendre ça comme un compliment.
Ben, merci absolument, beaucoup. Absolument, mon cher Martin. D'abord et avant tout, avant de parler de sport, oui, qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi la clameur derrière toi?
Ah, c'est la répétition du show d'ouverture ici au Centre
Bell. OK, oui, c'est ça. Les Blackhawks sont en ville ce soir.
Les Blackhawks de Paul Hood.
Oui, ben oui, Paul qui est un grand fan des Blackhawks. OK, Martin, parle-nous de l'avenir immédiat de messieurs Price et Weber.
Oui, c'est un collègue journaliste qui ne dit pas n'importe quoi habituellement. C'est pour ça que je vous en parle. Pierre Lebrun, pour ne pas le nommer, du site internet athletic.com et de Bell Media, qui affirme qu'il a eu une conversation avec Marc Bergevin où celui-ci lui a confirmé que ni Price ni Weber seront échangés d'ici le 24 février prochain, la date limite des échanges. Ça, c'est pas une surprise, mais il y a un élément de la conversation que Lebrun a eu avec Bergevin qui est intéressant, où Bergevin dit « Je n'échangerai pas ces deux-là tant que je serai ici, et ces deux-là font partie du plan. » Ça, c'est donc dire que Price et Weber sont dans le plan à moyen terme du Canadien de Montréal. On n'a pas l'intention de les laisser partir, contrairement à ce qu'une certaine vague, puis là, je vais mettre le terme entre guillemets, à ce qu'une certaine vague populaire allait suggérer que le Canadien était pour regarder ces options-là. Marc Bergevin, en tout cas, selon cet article-là, semble fermer la porte. J'ai placé une demande pour obtenir des explications de la part du Canadien de Montréal et j'attends toujours pour obtenir confirmation de ces informations-là.
C'est pas vraiment étonnant, Martin, dans la mesure où Carey Price, c'est vraiment le plus gros contrat que Marc Bergevin a accordé à un de ses joueurs. Et quand tu investis autant dans un joueur, tu le veux pour longtemps. Puis chez Weber, on sait combien il aime chez Weber. Il l'a nommé capitaine dès qu'il a eu l'occasion. Mais ce que je trouve un peu troublant dans ça, c'est d'écarter l'idée dès le départ. D'écarter l'idée avant même d'avoir une offre. D'écarter l'idée avant même de discuter avec d'autres équipes. D'écarter l'idée avant même de savoir s'il n'y aurait pas une transaction avantageuse pour le Canadien. Si c'est ça, je trouve ça un peu troublant.
Moi, je pense qu'il y a des équipes qui sont informées, Philippe. Moi, je suis convaincu que des directeurs généraux qui regardent leur équipe, qui ont une chance d'aller en série, puis qui ont peut-être des questions à se poser sur leur propre force devant le filet. Moi, je suis convaincu qu'il y a des équipes qui ont appelé Marc Bergevin et qui ont dit « Est-ce que tu es disposé à parler de Carey Price? »
Mais tu sais très bien, Martin, comme aussi bien que moi, que quand arrive la date limite des transactions, il y a des équipes qui voient leur concurrent direct se positionner en effectuant une transaction. Et là, ça les force elle-même à se repositionner. Et là, le téléphone peut ressonner à ce moment-là. Mais donc, la situation est très mouvante jusqu'à l'heure limite, là, 15 heures l'après-midi. C'est quoi? C'est le 24 février cette année. Donc, jusqu'à 15 heures, heure de l'Est, 24 février. Le portrait peut toujours changer.
Je rappellerai quand même ceci. La veille du repêchage, l'été passé, à Vancouver, dans une entrevue qu'il m'accordait et que j'avais diffusée de façon intégrale, je lui demandais s'il était possible que le Canadien dépose une offre hostile et il m'a dit non. En me regardant dans les yeux, c'est quelque chose de trop compliqué et c'est pas quelque chose dans lequel on veut se lancer. Et quelques heures après, on le sait, il a déposé une offre hostile pour tenter d'obtenir Sébastien Aho. Est-ce que c'était une offre hostile qui valait la peine de s'appeler offre hostile? Peut-être pas, mais il l'a fait pareil. Alors, est-ce que ça veut dire que Price et Weber vont terminer leur carrière avec le Canadien? Non, je ne pense pas. Mais à court terme, il n'a pas l'air à vouloir aller là parce que j'ai l'impression que l'an prochain, avec ces deux-là, il voit peut-être son équipe meilleure qu'elle est ou qu'elle l'est actuellement avec ces deux-là l'an prochain.
Ouais. Martin, c'est une des nouvelles d'aujourd'hui. Ah. L'autre grosse nouvelle, là, franchement, c'est une bombe. C'est le congédiement de Gérard Galland. Hey, tu sais, quand on dit que ce métier-là, il n'y a pas beaucoup de sécurité d'emploi, Gérard Galland, coach par excellence de la saison il y a deux ans, conduit une équipe de l'expansion à la finale de la Coupe Stanley, jamais vu, apprécié de ses joueurs. Et là, bang, aujourd'hui, merci pour vos bons services, M. Galland. Voici la porte de sortie.
Écoute, en trois saisons, 118 victoires, 75 défaites et 20 défaites en prolongation. Puis il est allé en finale de la Coupe Stanley en 2018. Mais vous savez quoi? Les Golden Knights de Las Vegas actuellement glissent dans la division Pacifique, mais là, glisse, c'est un mot, je dirais que c'est un gros mot, oui. Parce que les Golden Knights sont cinquièmes de la division Pacifique, mais ils ont seulement un point de retard sur les Flames de Calgary, troisième, les Oilers, deuxième. Ils ont trois points de retard sur l'Arizona, qui est premier. C'est de ça que McCrimmon, le directeur général, a peur. Ouais. C'est de ça. Il a peur de glisser dans les équipes repêchées et là, de plus contrôler en quelque sorte. Parce que, tu sais, Philippe, honnêtement, là, les Golden Knights, sur papier, devraient être les premiers de cette division-là. Puis ils devraient être les premiers, pas par deux points, par au moins quatre, ouais, cinq points par rapport aux autres équipes.
Il l'était tout récemment, ce qui fait que Gérard Gallant a été choisi comme entraîneur de la division Pacifique au match des Étoiles qui sera disputé à la fin du mois. Et là, on fait quoi, là, Martin? Il va falloir retrouver un autre. Là, il n'ira pas, certain.
On va en trouver un autre, il n'ira pas là. Puis savez-vous quoi? Il est remplacé par Peter DeBoer, qui a été remercié en décembre à San Jose parce qu'il n'y avait pas une fiche de 500.
Ouais.
C'est quand même...
Gérard Gallant a traité Peter DeBoer de clown l'an dernier pendant les séries éliminatoires. Alors, ces deux-là s'aiment pas, puis là, c'est DeBoer qui prend la place de Gallant. Disons que je pense pas qu'ils vont partir pour un voyage de pêche l'été prochain ensemble.
Puis là, on connaît l'histoire, là, parce qu'au printemps dernier, les Sharks de San Jose ont éliminé les Golden Knights dans une élimination qui a été controversée, le fameux septième match avec la punition de 4 minutes, puis de 5 minutes, pardon, puis les buts en avantage numérique, ça a fait mal à Vegas. Mais ça veut dire là, que le propriétaire des Golden Knights a dit, il faut y aller à la coupe pendant qu'on a cette équipe-là, pendant qu'on a des joueurs à leur top, dans leur meilleur. Je parle de Stone, de Pacioretty, de Fleury, qui est maintenant dans une trentaine avancée, disons-le. Là. Je pense que la raison derrière ça, c'est on ne peut pas manquer notre coup cette année.
Et tu veux aussi toucher les revenus comme propriétaire des matchs des séries éliminatoires. C'est très important pour une organisation comme celle-là qui a payé une fortune pour sa concession.
650 millions.
Qui a bâti un centre de développement aussi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, c'est sûr qu'ils ne veulent pas rater les matchs éliminatoires avec une bonne équipe.
Et l'autre chose, Philippe, en terminant sur ce dossier-là que j'avais entendu, moi, concernant Gérard Gallant, c'est que après l'élimination face aux Sharks et au début de cette saison-ci, c'était un peu plus tendu autour de l'équipe. Mais tu sais, je regardais les commentaires de Marc-André Fleury, puis Marc-André Fleury a dit « Je m'en veux d'avoir laissé ça arriver ».
Ah ouais. Donc, il se sent une responsabilité.
Les joueurs se sentent responsables. Et j'ai l'impression que le pari qu'a pris le coach McCrimmon, c'est ça. C'est d'aller fouetter ses joueurs. Parce qu'à un moment donné, il a été bombardé de questions. Puis il a fini par dire, on ne peut pas échanger 15 joueurs. C'est plus facile de congédier deux coachs.
Comme d'habitude.
Puis là, ben c'est le septième. Puis Claude Julien est parti de mode à Montréal. C'est-à-dire, tu te fais congédier à quelque part, puis quelques semaines après, tu recommences ailleurs. Et c'est une mode qui est maintenant répandue. La question, Philippe, d'après toi et Patrick, est-ce que vous pensez que les Golden Knights ont appelé Mike Babcock?
Non, moi, je pense pas. Je pense que Mike Babcock, je serais très étonné que Babcock revienne à court terme dans la Ligue nationale. Peut-être l'an prochain, mais pas en saison. Je pense que c'est trop frais encore ce qui est arrivé.
Intéressant. Moi, je serais pas surpris d'entendre un de ces jours qu'il y a eu des coups de fil.
Peut-être.
Parfait. Ben, Martin, on te reparle 17h50 environ avec...
Chicago, les Blackhawks ce soir.
On te reparle vers la fin de l'émission. On va te parler avec Danny. Puis je veux que tu nous parles plus tard de Corey Crawford, le gardien des Blackhawks.
Peut-être la dernière fois dans ce chandail-là, à Montréal.
Merci beaucoup, Martin.
À tantôt.
16h33, Philippe. Le
camp d'entraînement de l'Impact qui se poursuit. Puis aujourd'hui, l'Impact a annoncé la signature d'un contrat de 2 ans avec 2 années d'option par le jeune Québécois Jean-Yves Balou-Tabla, un gars bourré de talent qui avait été prêté à l'équipe de Barcelone, qui finalement est revenu avec l'Impact, qui n'a jamais réussi vraiment à transposer sur le terrain toutes les promesses placées en lui. Il y a eu une couple d'incidents pas très importants, mais qui ont mal paru, notamment. Il a mis sur son compte Instagram une photo de lui de s'entraînant, mais avec le gilet du Toronto FC. Bon, il dit c'était le gilet d'un de mes amis, mais quand tu fais partie de la grande famille de l'Impact, tu sais, c'est pas une très bonne initiative. Alors aujourd'hui, ben, il a rencontré les médias. Notre ami Jérémy Filosa était là. Voici ce que Jean-Yves Balou-Tabla dit à propos de son approche à partir de maintenant.
Personnellement, j'ai beaucoup de trucs à améliorer, mais le plus important, c'est sur le terrain, c'est les résultats. Donc, les fans, je pense qu'ils s'attendent à beaucoup de résultats sur le terrain, puis moi, en train de parler à l'extérieur. Donc, je suis prêt mentalement à ça.
Alors, l'Impact a besoin d'un Jean-Yves Balutabla qui serait capable de contribuer à l'attaque. Je pense qu'il peut le faire, mais voyons si Thierry Henry va être capable d'aller sortir le meilleur de lui. Parce que, Patrick, ça va commencer très bientôt avec les matchs de CONCACAF pour l'Impact. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la formation de l'an dernier. C'est une formation qui n'a pas participé aux séries, qui a été très souvent décevante. Alors, on ne peut pas dire que, dans le moment, là, ça regarde magnifiquement pour l'Impact.
Mais on a changé de coach.
Oui, puis il y a encore du temps pour apporter des améliorations.
Très bien, merci Philippe. T'es libéré. On te retrouve demain, 16h35. Au retour, Catherine Beauchamp s'en vient. La comédienne Anne-Élisabeth Bossé, une grande comédienne de chez nous. On va devoir l'appeler humoriste très bientôt.